Voilà les amis, je vous invite maintenant à prier avec moi, à retrouver si vous voulez bien le texte dans le livret de cette histoire, l'idée d'une prédication. Pourquoi nous on suit des textes comme cela? C'est pour que ça soit Dieu qui parle et pas l'orateur qui parle de ce qu'il a envie de parler. Mais on creuse ensemble ce que Dieu dit dans cette histoire. C'est ça notre objectif, on ne le fera pas ça parfaitement, mais on essaye de voir qu'est-ce que Dieu, en inspirant cette histoire, voulait communiquer par cette histoire. C'est ça notre objectif ensemble. Et donc, je vous invite maintenant à prier avec moi que Dieu nous accompagne. Oui, notre Dieu, tu nous dis que toute écriture est inspirée par toi et donc utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Nous te prions donc que cela soit le cas aujourd'hui, ce matin, que tu nous parles par cette parole soufflée par ton esprit et que ton peuple soit à ton écoute. Pour la gloire, Seigneur, de ton nom, nous te prions. Amen. Amen. Alors, j'ai écouté, moi, un podcast cette semaine sur le développement des armes nucléaires pendant la guerre froide. Ce n'est pas un domaine que je maîtrise, loin de là. Mais je dois avouer que j'ignorais, peut-être comme vous l'ignorez aussi, à quel point nous avons été proches pendant ces années 50, 60, 70 d'un désastre nucléaire simplement à cause des accidents. Par exemple, aux États-Unis, ils ont échappé de justesse à une catastrophe aux proportions monumentales lorsque deux bombes à hydrogène Mark 39 ont été accidentellement larguées au-dessus de Caroline du Nord le 23 janvier 1961. Chaque engin transportait une charge utile de 4 mégatonnes, soit l'équivalent de 4 millions de tonnes d'explosifs TNT. Donc, c'est-à-dire 260 fois plus puissant que l'engin qui a dévasté Hiroshima. Les bombes sont tombées sur Terre après qu'un bombardier B-52 se soit brisé en plein vol. Et l'une des bombes s'est comportée exactement comme une arme nucléaire conçue pour la guerre. Son parachute s'est ouvert et ses quatre mécanismes de déclenchement conçus pour empêcher une détonation involontaire se sont enclenchés. Sur les quatre mécanismes, trois n'ont pas fonctionné correctement. Lorsque la bombe a touché le sol, un signal de mise à feu a été envoyé au cœur nucléaire de la bombe et seul le dernier interrupteur, très vulnérable, a permis d'éviter la catastrophe. Ouf ! Tout près d'une catastrophe. Et je l'ignorais complètement, moi. Que dans un champ dans le Caroline du Nord en 1961, quelque chose d'assez conséquent a eu lieu quand même. Alors l'histoire de Judas et Tamar, c'est une histoire intéressante. J'espère que vous avez pu suivre cela en écoutant cette histoire. Il y a des décès très soudains, il y a des promesses trahies, il y a une prostituée, il y a de l'hypocrisie, il y a de la tromperie, et il y a même à la fin un combat des jumeaux lors de leur naissance. Et tout cela après un chapitre 37, à propos de Joseph, qui lui, à la fin de ce chapitre 37, se trouve en Égypte, vendu comme esclave à Potiphar ou fonctionnaire du Pharaon, après avoir, lui, été trahi par ses frères. Et on termine, peut-être vous étiez avec nous la semaine dernière, on termine le chapitre 37 et on se demande qu'en est-il de la suite de l'histoire donc de Joseph. Mais au lieu, chapitre 38, de se trouver en Égypte avec Joseph, nous sommes dans ce coin un peu inconnu avec l'un des frères de Joseph, Judas, plusieurs années après les événements du chapitre 37. Joseph, en Égypte, en esclavage, il ignore ce qui se passe au chapitre 38. Jacob, le père, lui aussi ignore ce qui se passe. Mais quelque chose de conséquent, très conséquent, est en train d'avoir lieu lors de ce chapitre 38, sans que Judas lui-même le sache non plus. À travers cet événement inattendu, viendra un chemin qui mène au roi David et ensuite, à son tour, jusqu'à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Donc ce chapitre-ci, ce n'est pas un détour sans conséquence. Non, c'est fait exprès par Moïse, l'auteur, car l'ensemble de ces chapitres à la fin du livre de la Genèse, ce n'est pas uniquement une histoire à propos de Joseph, même si c'est lui le personnage central. Non, c'est aussi l'histoire de son frère Judas et de son père Jacob. Nous avons vu à la fin du chapitre 37, Jacob déchiré à la nouvelle de la mort apparente de son fils Joseph, son fils favori. Et d'ailleurs, trois fois dans ces trois chapitres 37, 34 et le début, 37, 38 et le début du 39, il y a le verbe descendre qui est employé par Moïse. 37, verset 35, si vous avez cela sous les yeux, pas dans le livret, mais dans votre propre Bible, c'est dans le deuil, disait Jacob, que je descendrai vers mon fils. Chapitre 38, verset 1, en ce temps-là, Judas s'éloigna, mais plutôt descendit de ses chers frères. Et chapitre 39, verset 1, on fit descendre Joseph en Égypte. Ce n'est pas un accident que le même mot est employé. C'est exprès pour relier ces trois personnages que nous voyons à travers ces différentes descentes d'une manière ou d'une autre et leur remontée respective grâce à la main puissante de Dieu. La main puissante de Dieu qui est à l'œuvre pour nous apprendre des choses, pour nous humilier, pour nous encourager. Donc, on va commencer, comme vous voyez, je pense, dans le livret que vous avez sous les yeux, avec Judas. Judas, un homme ignoble qui contraste avec Joseph. Judas, Jonathan nous a dit, le quatrième fils de Jacob. Mais c'est déjà, dans le récit, un leader. C'était son idée, au chapitre 37, de profiter du désir de ses frères de se débarrasser de Joseph en le vendant en esclavage. La proposition du frère aîné, Ruben, n'est pas acceptée par le groupe. Mais ce que Judas propose, ça passe. Et au chapitre 38, nous voyons donc Judas sous l'influence, dès le premier verset, d'un certain Ira, l'Adulamite. On connaît pas grand-chose de cet ami qu'il a. Mais il est là chaque fois que Judas prend une mauvaise direction. C'est lorsqu'il est chez lui qu'il tourne son regard vers cette femme cananéenne, avec ce danger qui l'accompagnait de s'éloigner également du Dieu d'Israël, vers des pratiques cananéennes, païennes. Et Adullam, il est là également, verset 12, après le décès de la femme de Judas, lorsque Judas fasse une autre bêtise, n'est-ce pas? Mais voyons d'abord cette première femme qui donne à Judas trois garçons, Er, Onan et Shelah. Le premier garçon, Er, il devient grand bien entendu, et lui, il prend pour femme Tamar. On voit ça au verset 6. Mais problème, ce Er, il était méchant aux yeux de l'Éternel. Peut-être que ce n'est pas une grande surprise avec un papa pareil que le fils aussi se révèle comme étant méchant. Et le texte dit que Dieu, par conséquent, le fait mourir. On ignore totalement les détails de cela. Mais dans ce cas, selon la tradition de l'époque, une tradition qui se trouve plus tard dans la loi de Moïse, Deutéronome 25 nous dit cela, si un frère meurt sans héritier, c'est l'obligation du frère le plus proche du défunt de l'épouser et avoir des relations intimes avec sa femme afin de pérenniser la descendance de ce frère décédé. Un enfant né ainsi est considéré comme le fils de l'autre, celui qui n'est plus, même si c'est l'autre frère qui, lui, est le père biologique. Alors, vous pouvez peut-être comprendre, si vous l'avez suivi jusque-là, que pour le frère du défunt, ceci pourrait engendrer un tiraillement entre l'obligation envers ton frère décédé et envers ta propre famille. Car s'il n'y a pas de descendant pour ton frère, l'héritage viendra à qui? À toi, à ton fils, à toi. Et rappelons-nous qu'il s'agit d'un héritage conséquent à cette époque-là pour le fils aîné. Et du coup, Onan, le deuxième frère, contraint donc de respecter la tradition, essaie de manipuler les circonstances en faisant attention chaque fois qu'il avait des rapports sexuels avec Tamar, de laisser tomber, nous dit le texte, sa semence par terre. Alors vous pouvez comprendre que je suis content que l'école de dimanche a repris aujourd'hui, mais si vous n'avez pas compris, vous pouvez demander à quelqu'un d'autre plus tard. Mais pourquoi il agit de la sorte? Il essaye d'éviter de donner une descendance à son frère. Ça a marché. Mais c'est comme si cette famille, Judas y compris, a du mal à se rappeler qu'ils font partie de cette famille appelée par Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ce Dieu-là n'est pas aveugle à ce qui se passe. Et donc, verset 10, ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. On passe donc au troisième fils, Shéla. Lui, encore trop jeune à ce moment-là pour assumer cette responsabilité auprès de son frère aîné. Mais Judas, le père, lui, devient craintif pour sa descendance tout court, car deux de ses trois fils sont déjà morts. Et il soupçonne que Tamar doit être la source de cette malédiction. Lui, donc, aveugle quant aux fautes évidentes de ses propres fils, il serre les rangs de la famille et il prend position contre cette femme étrangère, sous guise d'attendre que le troisième fils arrive à l'âge qu'il faut. C'est encore manipulateur, n'est-ce pas, de sa part. Cela démontre un esprit mesquin, cruel, par rapport à Tamar. Car elle, dans cette société, dépend entièrement de sa belle famille pour son avenir. Elle est coincée, elle le sait. Shéla, bien sûr, il devient plus grand, mais verset 14, elle ne lui était pas donnée en mariage. Et donc, elle concocte un plan pour coincer à son tour son beau-père. C'est la période où il tendait des brebis. Et Tamar sait deux choses. Elle sait que la femme de Judas est décédée, verset 12. Et elle sait que lors de cette période, il y a de la fête. Lorsqu'il tendait des brebis, apparemment, c'est une occasion de fête. Et qui dit fête, dit alcool. Et alcool fait perdre la raison. Vous pouvez aller voir le texte, donc pas maintenant, Osée chapitre 4, versets 11 et suivants, qui fait allusion à cet épisode et à la faute de Judas. Le deuil de Judas par rapport à sa femme est fini. Et le voici donc avec son amie Hira, la Dulamite. Et elle sait, amassée, qu'il sera sans doute susceptible, Judas, à un peu d'amusement. Car elle est suffisamment confiante, n'est-ce pas, qu'une fois qu'elle se déguise en prostituée, qu'elle se présente en chemin à Judas, qu'il sera partant pour une telle bêtise. Cela en dit long sur la qualité de son beau-père, n'est-ce pas? Oui, effectivement, il s'arrête en le voyant, en la voyant sur le chemin, et ignorant lui de qui il s'agit, il lui propose de manière très directe une liaison sexuelle. Une liaison sans doute avec des connotations toujours païennes, car plus tard, lorsque l'Adulamite la cherche, il demande pour qui ? Il demande pour la prostituée sacrée. La religion païenne supposait que si les hommes jouaient, encore une fois, content qu'on n'est pas avec l'école de dimanche, jouaient l'acte sexuel devant les divinités, cela encourageait en quelque sorte ces dieux souvent capricieux, endormis, de faire de même. Et avec cela, il y aura des conséquences d'une semence qui rendra la terre fertile. C'était ça la religion païenne. Peut-être donc que Judas s'entremêle sans problème dans ce syncrétisme, sans la moindre hésitation. Ou peut-être, par contre, comme le mot pour prostituée au verset 15 n'est pas celui employé pour une prostituée sacrée, peut-être Judas essaye de se cacher sous un vernis de désir plus respectable pour le temple, pour la société, lorsqu'il envoie Hira. Les deux possibilités sont là. Mais ce qui est clair, c'est une liaison dangereuse. Car Tamar demande un prix. Et le prix, c'est un chevreau. Le même mot dans la langue originale, est employé pour parler du bouc tué à la fin du chapitre 37 pour mettre du sang sur l'habit, la tunique de Joseph, pour faire croire à Jacob que Joseph est mort. Judas est d'accord avec ce plan de mettre ce sang sur cet habit. Mais il doit donc lui... Ici, ce qu'il fait... Il est d'accord avec la proposition de Tamar, mais il doit lui envoyer un chevreau plus tard, parce qu'il n'en a pas sur lui. Et par conséquent, elle demande un gage. Et le gage auquel il donne son consentement, c'est son sceau, son cordon et son bâton. À cette époque, ce sont trois articles qui servent à l'identifier, personnaliser à sa personne. Comme d'autres ont dit, en commentant à ce texte, c'est l'équivalent aujourd'hui de donner ton iPhone avec empreinte digitale, ton mot de passe pour Itsme, si vous utilisez cette application, ta carte d'identité. Judas ne voit pas le danger. Le péché, vous savez, nous rend tous parfois aveugles quant au risque que nous courons lorsque nous péchons. Tellement nous sommes pris par l'émotion du moment de vouloir bénéficier de ce que nos yeux voient. Et donc voilà, l'acte a lieu, et oui, Tamar ensuite tombe enceinte, ce qui était toujours son objectif. Par la suite, Judas, il est coincé. Il essaye de récupérer les trois objets, mais l'Adulamite ne trouve aucune trace de cette femme. Judas, qui cherche toujours à protéger à tout prix son identité dans cette affaire, décide de laisser tomber les recherches. Et puis vient la nouvelle, 3 mois plus tard, que Tamar, dans la maison donc de Judas, sa belle-fille, est tombée enceinte. C'est un scandale, car tout le monde sait que Shéla, le fils cadet, n'a pas rempli son obligation autour de sa belle-sœur. Le jugement qui tombe sur Tamar de la part de Judas est brutal. surtout hypocrites. Verset 34, 24, « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Mais ce n'est pas lui qui a le dernier mot, car Tamar choisit ce moment pour révéler l'identité du père de l'enfant. Elle lui demande reconnaître à qui les objets appartiennent. Tout comme les frères de Joseph avaient demandé à Jacob, en utilisant le même mot, de reconnaître la tunique de son fils, au chapitre 37, verset 32. Jacob l'a reconnu, et ici, Judas le reconnaît. C'est effectivement lui, le père du bébé. Lui qui avait traité Tamar avec du mépris. Lui qui n'a pas tenu parole par rapport à sa promesse. Lui qui a agi en tant qu'hypocrite. Judas avait dupé son père en le présentant la tunique de son fils, tachée du sang d'un chevreau, afin qu'il le reconnaisse. Mais maintenant, Judas est dupé par Tamar, à qui Judas lui aussi avait présenté un chevreau, et devant qui il devait également reconnaître sa faute. On lui rend donc la monnaie de sa pièce. Et voici donc Judas, chers amis. Il va falloir attendre la semaine prochaine pour voir à quel point le contraste avec son frère Joseph. Lorsque Joseph, lui, se trouve dans des circonstances aussi difficiles, aussi face à la tentation sexuelle. Judas, c'est un homme calculateur, un homme qui met son intérêt personnel au centre de sa vie, un homme qui n'a pas l'air fort concerné lorsque deux de ses fils meurent suite à un mauvais comportement, un homme qui profite des femmes, qui ne prend pas soin des siens, qui ne tient pas parole. Un homme hypocrite qui condamne les autres pour des fautes qu'il commet lui-même. Un homme qui se fiche de ce qui est juste. Un homme qui n'est pas gêné d'abandonner le Dieu d'Israël lorsque cela joue pour son propre avantage à lui. Un homme fort influencé, il paraît, par des amis un peu suspects. Vous savez, je prie qu'un tel homme ne soit pas le beau-père de l'une de mes filles. Et pourtant, c'est le beau-père de Tamar, dont le nom apparaît dans les généalogies de Jésus-Christ. Et c'est de sa lignée que viendra le roi David et du coup le Seigneur Jésus. Parfois, vous voyez, Dieu est à l'œuvre dans des circonstances peu prometteuse, inattendue. Et donc, on tourne le regard maintenant brièvement vers Tamar. Mais même si ce n'est peut-être pas le point central du message de ce matin, il ne faut pas quand même rater l'avertissement que nous donne le narratif que le comportement de Judas est à éviter à tout prix, les amis. S'il n'y a rien à reprocher à Joseph, si ce n'est peut-être un peu de jeunesse dans son approche au chapitre 37. Judas, quant à lui, ce n'est plus un jeune. C'est un homme bien expérimenté, mais avec un cœur endurci. Et donc, oui, nous devons, nous méfier de ce portrait de Judas. Nous devons faire attention de ne pas être trop influencés par ceux qui n'ont pas le moindre regard pour le Dieu d'Israël, pour le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. De faire attention de ce qui peut arriver lors d'une fête, lorsque je donne trop de place à l'alcool et à mon ressenti du moment. De ne pas traiter les femmes comme un objet pour ma satisfaction personnelle, que ce soit sur un écran ou en présentiel. De ne pas condamner trop vite les autres pour les fautes que je commets moi-même. Vous savez, ça m'a toujours marqué que ma sœur, ma grande sœur, elle, qui n'est pas chrétienne, m'a appris que souvent, d'ailleurs, nous sommes les plus irrités et le moins patients avec les fautes de nos proches que nous n'apprécions pas en nous-mêmes. je gaspille trop de temps devant un écran sans être efficace. Alors je vais critiquer très fort mes propres enfants, mon épouse, lorsque je vois ce comportement-là. C'est hypocrite, n'est-ce pas? Donc venons à Tamar, si vous voulez bien, après avoir fait cette pause, de dire, voilà, il ne faut pas oublier que nous devons apprendre ces choses-là. Mais cette histoire est surprenante aussi, car le narratif ne condamne pas ce qu'elle, elle fait. Ce n'est pas que l'histoire recommande la tromperie, la prostitution, mais les circonstances atténuantes sont là. Ces actions tout à fait exceptionnelles, cela est souligné car dès la fin de sa liaison avec Judas, elle, nous dit le verset 19, se leva et s'en alla, elle retira son voile et remit ses habits de veuve. C'était exceptionnel. Ces actions sont les conséquences du manque d'action de la part de Judas. Judas, d'ailleurs, par son propre aveu, verset 26, reconnaît qu'elle est moins coupable que lui, puisque, dit-il, « Je ne l'ai pas donné à mon fils, Shéla. » Il aurait dû tenir parole. Elle se trouvait sans héritage, vulnérable et mise à l'écart au sein d'une famille dont le père le voyait avec, ou la voyait avec méfiance. Mais nous la voyons, Tamar, dans ce récit, malgré ses coups durs qu'elle devait assumer, tenace, débrouillarde, déterminée. Déterminée, elle, de s'intégrer dans la lignée promise. Les promesses du Dieu d'Israël à l'égard de cette famille d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Dès le début du livre de la Genèse, ceux qui lisent ce livre, nous sommes à la recherche, vous savez, de la descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent. Ça nous mènera ultimement à Jésus. Mais il y a donc une trace où nous cherchons encore où est-ce que nous en sommes avec la descendance. Des promesses donc à Abraham que les rois viendront de sa descendance, de sa lignée, que les nations seront bénies en lui. Tamar a sûrement compris cette histoire de la famille. Et elle cherche comme la femme du fils aîné de Judas à être le moyen par lequel cette descendance poursuit sa course. Et quelque chose de conséquent est en train d'avoir lieu. Cela est souligné lors de la naissance des jumeaux à la fin de ce chapitre 38. Car lors de l'accouchement, il y a une lutte. Et celui qui devait sortir en premier, celui sur qui la sage-femme a attaché un fil cramoisi, pour finir, retire son bras. Et c'est l'autre, Pérez, la brèche, qui sort en premier. L'autre, Zéra, ou l'éclat, celui qui avait ce fil sur son bras, il sort après. Cela fait penser à un autre, deux autres frères dans le ventre de sa mère, n'est-ce pas? Jacob et Ésaü, qui se bagarraient dans le ventre de Rachel. Et c'est Jacob, et pas l'aîné Ésaü, qui obtient la bénédiction et le droit d'aînesse. Oui, Pérez, ici, et pas Zéra, devient le chef du clan le plus important de la tribu de Judas. Et c'est de sa descendance plus tard que naîtra Bouz. Peut-être Bouz ne vous dit rien, mais c'est un homme important, parce que c'est lui qui se marie à Ruth, à la fin du livre de Ruth dans la Bible. Ruth, qui comme Tamar, est une femme étrangère et qui trouve refuge dans cet homme qui assume la responsabilité de la belle famille de cette femme, Bouz. Et dernier chapitre du livre de Ruth, verset 12, à la fin du livre, que dit le peuple au sujet de Bouz, verset 12 de Ruth, chapitre 4 ? Puisse la descendance que le Seigneur te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Pérez que Tamar a donnée à Judas. C'est effectivement un tournant important. Et ce tournant mène directement au roi David, car Bouze, chapitre 4, verset 21 de Ruth, est l'arrière-grand-père du roi David. Si on parle du roi David, on parle aussi du descendant de David, le fils de David, qui devait encore venir. Ce descendant attendu par qui toutes les promesses de Dieu seront accomplies. Nous parlons bien sûr de Jésus-Christ. Tamar, donc cette femme déterminée, ignorée par les siens, méprisée, maltraitée par son beau-père, a sa place dans la généalogie de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 1, versets 2 et 3 est lié. Tamar, tout comme Ruth, comme Rahab, comme la femme d'Uri, Bathsheba, et comme Marie, les cinq femmes dans les généalogies qui mènent à Jésus. Pourquoi Tamar? Pourquoi d'ailleurs Ruth, Rahab, Bathsheba? Car c'est ici où on arrive à notre conclusion, chers amis. Nous avons affaire à un Dieu qui agit, qui se prend et qui transforme. Dieu se sert non seulement des circonstances malheureuses de nos vies pour agir, par sa main cachée pour le bien de son peuple et pour la gloire de son nom. Nous avons vu cela avec Joseph la semaine dernière, que malgré les actes méchants des frères de Joseph, Dieu opère derrière la scène pour sa gloire à lui. Mais Dieu se sert non seulement des mauvais actes, mais également des hommes mauvais pour opérer son plan. Un plan qui a pour résultat la venue de Jésus lui-même, le Sauveur. Dieu, vous voyez, même à travers cette histoire sale, ignoble, il agit de façon surprenante. Qui pensait que Tamar, mis sur le côté, allait pour finir jouer un rôle aussi important dans le plan de Dieu? C'est comme si Dieu, en mettant Tamar dans la généalogie qui mène jusqu'à Jésus, fait exprès de souligner que de telles personnes peu prometteuses, rejetées par la société respectable, méprisées par les puissants de ce monde, ont leur place au sein du plan de Dieu. Il se sert, notre Dieu, nous dit le texte que Jonathan nous a déjà cité, 1 Corinthiens chapitre 1, il se sert de ce qui est vil dans le monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, de sorte que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Et cela, chers amis, c'est profondément encourageant. L'Église de Jésus-Christ, vous rassemblez ici à l'extérieur, certains ont un peu froid, j'ai bien vu cela, d'autres pensaient avoir chaud, mais maintenant eux aussi ils ont froid parce qu'il n'y a plus de soleil. Donc vous êtes punis par là, non, on n'a pas dit cela. L'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas un rassemblement de héros. Nous venons fiers de ce que nous sommes, confiants, si vous voulez, de notre place ici dans le peuple de Dieu, fiers de notre passé. Non, c'est un rassemblement de zéro. Aux yeux du monde, hein? Aux yeux du monde, ce que nous faisons, c'est ridicule, les amis. J'espère que vous savez cela. À l'extérieur, avec des couvertures pour entendre une parole écrite il y a 2000 ans, c'est ridicule. Un sauveur crucifié, c'est ridicule aux yeux du monde. Vous comprenez cela? Si vous n'avez que les yeux du monde, que faites-vous ici? C'est ridicule. Mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas ridicule. Nous sommes ceux qui, avec détermination, réclament la grâce déversée sur nous en Jésus-Christ. Vous savez, Dieu a un cas tout particulier de prendre ce que les autres méprisent pour les utiliser de manière surprenante. Ceux qui sont peut-être en chômage, ceux qui sont des réfugiés, ceux qui sont des mamans monoparentales, et ainsi de suite. On peut parfois donner l'impression, même ici dans notre Église, que nous n'avons notre place dans cette Église uniquement si nous sommes bien habillés comme les autres, ou si nous parlons français correctement. Heureusement, ce n'est pas le cas. Si on arrive à respecter les règles parfois non dites de cette communauté, ce groupe, si grosso modo, on est sage. Non, nous avons notre place ici, parmi le peuple de Dieu, par la puissance de l'œuvre de Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui prend ce qui a l'air d'être peu puissant, peu impressionnant, pour confondre le monde, bien trop fier de lui-même. C'est le Dieu, voyez-vous, qui agit, qui surprend et qui, oui, transforme. Et là, on termine parce que, voyons ici, à la fin de ce texte, il transforme même Judas lui-même. Cette histoire réserve une place importante à Judas, ce frère méprisable jusque-là. Après ce chapitre, le Judas que nous allons rencontrer dans les chapitres suivants, il est devenu un homme sacrificiel, un homme concerné pour son père, pour ses frères, un homme qui intercède pour le bien des autres, pour le bien de sa famille. Et avec cela en tête, beaucoup comprennent le verset 26 de notre texte comme la conversion de Judas. Lorsqu'il déclare « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à mon fils, Sheila. » C'est là où il réalise qui il est vraiment devant le Dieu d'Israël. Et vous savez, c'est super encourageant cela, que cela démontre que Dieu peut transformer toute personne. Avec Dieu, la transformation individuelle est possible. Parfois, je pense que, même au sein de l'Église, nous oublions cela, n'est-ce pas? Nous sommes peut-être tellement découragés par les fautes évidentes que nous voyons chez les autres. Même chez nos frères et sœurs au sein de l'Église. « Oh, il est toujours comme ça, un tel. Oh, il ne changera jamais. Ah oui, ta-ta-ta-ta. » Et donc, petit à petit, nous commençons à penser que le changement n'est pas possible. Mais Judas témoigne que oui, Dieu peut intervenir, il peut transformer. Il transforme en bien les actes mauvais des autres, mais il transforme également les hommes mauvais en bien. Et cela pourrait être important, chers amis, pour vous. Je ne vous le connais pas tous personnellement. Vous êtes parmi nous aujourd'hui et peut-être, vous faites partie de ceux qui sont plutôt conscients de vos propres fautes. Peut-être vous vous identifiez plus facilement avec Judas qu'avec n'importe qui d'autre dans ce récit que nous avons vu. Vous ressentez l'écart entre vous, ici présents, et les autres. Et vous vous dites, peut-être pas à haute voix, mais cette église, vous savez, c'est sympa d'être là, mais ce n'est pas pour moi. Parce que ces personnes, si seulement ils savaient ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Mais Dieu sait ce qui est à l'intérieur de toi. Et pourtant, Dieu ne te met pas à la porte. Dieu te dit, viens à moi, confie-moi ta vie. Je veux intervenir en bien dans ta vie. Il peut faire cela, chers amis. Donc, ne ferme pas la porte. Si cela, c'est toi. Nous avons affaire à un Dieu qui agit, qui surprend et qui transforme. Quelle joie, chers amis, de confesser un tel Dieu. Prions, si vous voulez bien, pour terminer. Oui, merci, Seigneur, pour ce que tu nous as enseigné aujourd'hui. Mais nous te prions que cet enseignement ne soit pas des simples mots, mais que par l'œuvre de ton esprit, tu nous interpelles, tu nous fais réjouir si nous sommes déjà à toi, de qui tu es, ce Dieu qui agit, qui surprend, qui transforme. Et si, Seigneur, nous ne sommes pas encore à toi, nous te demandons que tu interpelles des âmes perdues, des hommes, oui, méchants, de faire face par rapport à leurs péchés et de voir que tu transformes par ta grâce toute personne qui vient à toi. Donc nous te prions, Seigneur, d'intervenir pour ta gloire dans nos vies et en tant qu'Église, que nous soyons une Église qui met sa fierté, non pas en nous-mêmes, non pas en ce que nous sommes, en notre talent, en nos dons, notre position dans la société ou autre, mais que nous mettons notre fierté uniquement et pour toujours en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.